journal de Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La flore intestinale n'a pas fini de nous surprendre. Notre microbiote échange des informations avec notre cerveau. Une mauvaise communication entre les deux peut entraîner des problèmes de diabète ou d'obésité. C'est une étude française publiée dans la prestigieuse revue Science. Comment mener des investigations sur ce qui se passe en Ukraine en ce moment? Le parquet national antiterroriste ouvre des enquêtes pour crimes de guerre. Ariane Grissel nous expliquera comment opèrent les enquêteurs. La politique et le retour aux affaires courantes de l'Île-de-France pour Valérie Pécresse, présidente de la région, après son échec à la présidentielle. Et puis Paris-Roubaix, la course cycliste mythique, est de retour ce week-end dans le nord de la France.
Et à 7h45, le débat éco, Thomas Piketty, Dominique Seux, ce matin, analyseront les programmes économiques d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen.
France Inter.
On dit souvent de lui, Laurence, qu'il est notre deuxième cerveau. Je veux parler de l'intestin.
Et pour cause, des chercheurs ont permis de mettre en évidence la présence de neurones dans notre intestin. Une équipe française de chercheurs a découvert que les bactéries dialoguaient avec nos neurones au point de perturber certaines fonctions essentielles comme la température ou la faim. CQFD, cette recherche fondamentale, ouvre la voie à une nouvelle manière d'appréhender et de traiter les maladies telles que le diabète ou l'obésité. Elle montre, cette étude, Sophie Bécherel aussi, à quel point le cerveau interagit avec les autres organes du corps.
Les bactéries de l'intestin et les neurones communiquent et des chercheurs viennent d'identifier celui qui sert à faire passer les messages. C'est le récepteur NOD2. Pierre-Marie Liedo est chercheur au CNRS et co-auteur de l'étude.
Nous venons de découvrir qu'un récepteur bien connu pour être exprimé par le système immunitaire, système qui nous permet de réagir face à l'envahisseur, à l'intrus, la bactérie, eh bien, ce récepteur est également présent dans le cerveau. Et la question, évidemment, c'est à quoi il sert.
Ce récepteur s'avère capable de détecter des bactéries, plus exactement des petits fragments de bactéries bien spécifiques issus de l'intestin.
Ces fragments de bactéries arrivent à atteindre notre cerveau et viennent inhiber un centre de l'appétit que l'on trouve dans l'hypothalamus. Et ces fragments-là vont mettre au repos comme une espèce d'anesthésie locale, d'où la conséquence, ce phénomène de satiété, je n'ai plus faim.
Quand le récepteur est absent ou défaillant, le cerveau perd le contrôle de la prise alimentaire. Pour preuve, des souris sans récepteur qui se sont mises à grossir. Voilà qui conduit à penser l'obésité différemment. Le surpoids pourrait être causé par des bactéries qui ne savent plus envoyer les signaux de satiété, par des neurones incapables de capter ces signaux ou par un problème dans le transport du signal. Trois pistes à explorer à l'avenir pour trouver de nouveaux outils thérapeutiques.
Sophie Bécherel. Le Moskva, le vaisseau amiral russe, a finalement coulé en mer Noire après avoir été touché par un missile ukrainien. Un revers militaire russe qui pourrait inciter Vladimir Poutine à recourir à une arme nucléaire tactique ou de faible puissance. C'est en tout cas l'analyse du chef de la CIA, William Burns. Et c'est dans ce contexte que l'ambassade de France en Ukraine, qui avait été déplacée à Lviv, près de la frontière avec la Pologne, sera réinstallée prochainement à Kiev, la capitale ukrainienne. Geste symbolique après les tensions entre la France et l'Ukraine ces derniers jours liés au refus d'Emmanuel Macron de parler de génocide. Le président français a redit hier soir au téléphone à Volodymyr Zelensky son engagement aux côtés de l'Ukraine, engagement qui passe par les investigations pour crimes de guerre. Le parquet national antiterroriste a annoncé l'ouverture de 4 enquêtes, l'une au sujet de la mort du journaliste franco-irlandais Pierre Zagrzewski il y a un mois, et les 3 autres sur des Français qui ont dû fuir l'Ukraine en catastrophe avec leur famille. Mais ils se considèrent comme des victimes de crimes de guerre. Des enquêtes confiées aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Ils se préparent à de longues investigations, Ariane Grissel.
Première étape pour la quarantaine d'enquêteurs de l'Office, essayer de collecter des preuves à distance. Il peut s'agir d'images satellites, de photos ou vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, de données de géolocalisation ou de témoignages. Le général Jean-Philippe Rélan est à la tête de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité.
Donc c'est le rassemblement de tous ces éléments qui ensuite permettent d'avancer dans la détermination des faits et puis ensuite la recherche des responsabilités. L'auteur initial, mais il s'agit surtout dans ce type de crime d'essayer de déterminer la chaîne de commandement de manière à bien déterminer ensuite toutes les responsabilités en cascade qui peuvent découler de ces crimes commis.
Au-delà des dossiers français, les éléments recueillis peuvent être transmis à la Cour pénale internationale qui a ouvert sa propre enquête début mars, d'où l'importance d'obtenir un maximum de témoignages, y compris sur le sol français. Jean-Philippe Rélan.
Tout déplacé ukrainien qui aurait été victime ou témoin de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité en Ukraine peut se rendre dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police, y déposer ce qu'on appelle une main courante qui sera ensuite centralisée au niveau de l'Office central où il y aura un travail d'analyse au profit du parquet national antiterroriste et qui pourra ensuite faire parvenir ces éléments d'information à la Cour pénale internationale.
Les gendarmes de l'Office pourraient se rendre en Ukraine quand les conditions de sécurité le permettront. Dans ce cas, il leur faudra d'abord, comme le prévoient les accords internationaux, obtenir l'autorisation des magistrats ukrainiens.
Ariane Grissel, debout mais sonnée après son échec cuisant à la présidentielle, y compris en Ile-de-France. Le retour de Valérie Pécresse aux affaires courantes s'annonce délicat, car cet échec national aux proportions inattendues a été retenti dans la région qu'elle avait conquise en 2015, et conservé haut la main en juin dernier. Autrement dit, Valérie Pécresse sera attendue au tournant, car de fait, elle est fragilisée, Anne Souhaitement.
Tourner la page le plus vite possible. Humiliée politiquement dimanche soir, Valérie Pécresse a réuni son équipe régionale dès mardi matin. Un moment étrange, raconte un participant qui décrit une femme secouée mais solide en public. Elle n'a jamais lâché la région, insiste son entourage. Mais l'affaire n'est pas si simple, car si elle peut compter sur une majorité confortable, en politique tout est affaire de dynamique et Valérie Pécresse le sait, elle a recueilli 3 fois moins de voix en Ile-de-France qu'au régional. Difficile d'imaginer que cela ne changera rien. Au cœur de toutes les interrogations, les élus régionaux LR mais soutien d'Emmanuel Macron dès le premier tour de cette présidentielle. Pourrait-il lâcher Valérie Pécresse et quitter sa majorité? D'après nos informations, la création d'un groupe indépendant n'est pas à l'ordre du jour, ou plutôt pas encore, peut-être après les législatives. En attendant la séance de reprise le 19 mai, l'opposition se lèche les babines. Qui dit majorité fragile dit opposition plus audible, sourit l'insoumise Clémentine Autain.
Anne Souhaitement, toujours concernant la présidentielle, le Conseil constitutionnel annule le premier tour dans le plus grand bureau de vote de Toulouse, raison invoquée des discordances importantes et inexpliquées entre le procès-verbal des résultats et les feuilles de dépouillement. Et c'est précisément ce à quoi servent les assesseurs, à s'assurer du bon déroulement du vote. Or, un certain nombre de communes font face à des difficultés dans le recrutement. Illustration à Brest, où il manque une centaine d'assesseurs pour le second tour. Et s'il manque du monde, eh bien c'est la faute aux formations politiques chargées de recruter des partis moins mobilisés pour le second tour, comme l'explique Yann Guevel, l'adjointe au maire de Brest.
On relance un appel aux assesseurs citoyens parce qu'on a quand même une inquiétude. On sait qu'il y aura moins de représentants des organisations politiques. C'est plus difficile de trouver des assesseurs au second tour, tout simplement parce qu'il y a que 2 candidats. Les 2 candidats désignent très peu d'assesseurs. Je crois même que le Rassemblement national n'en désigne aucun. On a des gens qui se sont mobilisés pour leur candidat ou leur candidate et qui ne viendront pas parce que c'est pas des candidats qui leur conviennent. Bon, c'est un choix que je respecte, mais j'appelle vraiment là au sens civique. Quand on est engagé dans un mouvement politique, je pense que notre responsabilité, c'est de faire vivre la démocratie. Et je peux garantir, moi, à tous les membres des organisations politiques, qu'il y a un enjeu démocratique majeur le dimanche 24 avril. Dans tous les cas, on trouvera une solution. Le scrutin se tiendra dans de bonnes conditions, bien entendu, mais c'est vrai que c'est plus difficile. Il y a 104 bureaux pour que les choses se passent bien. Il nous faut au minimum 600 personnes, ce qui permet d'avoir une rotation. Que les gens qui sont sur le bureau ne soient pas coincés toute la journée.
Yann Guevel, adjointe au maire de Brest, au micro de Nicolas Olivier de France Bleu Brésil. Et pour être assesseur, rappelons-le, il faut avant tout être inscrit sur les listes électorales de la ville. D'ailleurs, ce matin, entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, au moins 7 blessés. Ces violences en plein cœur de Jérusalem interviennent après une série d'attaques en Israël, Beersheva, Hadera, Bnei Brak et Tel Aviv. 14 morts en moins d'un mois. Et côté palestinien, 21 morts. Des hommes armés, mais aussi des civils sans armes tués sur cette même période. Les 2 derniers datent d'hier. C'était à Jenin, dans le nord du territoire. Dans cette ville, d'où sont originaires 2 terroristes, eh bien, les habitants soutiennent toutes les actions contre Israël. C'est le reportage de Frédéric Mettezo.
Au marché et dans les boutiques, les clients sont rares. Après le dernier attentat à Tel Aviv, l'armée israélienne a bouclé partiellement les environs. Mais pour Hassan, le terroriste a eu raison.
C'est à cause de la pression de l'occupation. Il ne la supportait plus, il ne pouvait plus la voir. À cause de cette humiliation, il y est allé et il a attaqué des cibles israéliennes. C'est comme ça.
Jamal Houel, ancien de la seconde intifada, célèbre une nouvelle génération.
La situation en Palestine est si déprimante que chaque jour il y a un martyr. C'est effrayant pour les Israéliens, car ils ont des infos sur les groupes armés, mais pas sur ceux qui attaquent. Ils sont différents. Eux les appellent loups solitaires, mais nous on parle fièrement de lions solitaires.
Au mépris des évidences, le gouverneur Akram Rajoub affirme que l'autorité palestinienne tient encore Jenin et il dénonce un 2 poids 2 mesures.
Justifier le siège de Jenin, les démolitions de maisons et les tirs sur Jenin, car deux des personnes qui ont commis les dernières attaques viennent de Jenin. C'est juste pour se trouver des excuses. J'ai une question pour le ministre israélien de la Défense. D'où venait l'assassin d'Itzhak Rabin? Qu'avez-vous fait à sa famille? Avez-vous assiégé son quartier? Avez-vous démoli sa maison?
Au souk, des t-shirts ont un succès fou chez les enfants et les ados palestiniens, ceux avec pour logo un fusil d'assaut M16. Jenin, Frédéric Mettezo, France Inter.
Le sport avec du football et l'OM de nouveau en demi-finale d'une Coupe d'Europe, ce sera la Ligue Europe Conférence. Les Marseillais se sont imposés 1-0 sur le terrain du PAOK Salonique. Coup dur en revanche pour Lyon, écrasé 3-0 par West Ham hier soir et donc éliminé de la Ligue Europa. L'événement sportif du week-end, c'est Paris-Roubaix, la grande classique cycliste où sont attendus des centaines de milliers de spectateurs au bord des routes du Nord. Car cette course, Fanny Lechevestrier, est devenue au fil du temps un outil de réhabilitation du patrimoine et une vitrine de toute une région.
Très géants, des mineurs ont été peints en blanc pour ce week-end sur le tracé de Paris-Roubaix pour célébrer les 10 ans de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rien d'étonnant à cela, souligne l'historien du cyclisme Pascal Sergent, tant la course avec ses champions, le visage noirci par la poussière, a construit sa légende dans le sillage des gueules noires.
Paris-Roubaix représente l'effort, les difficultés à vaincre, et c'est l'image de la région puisque la région a eu beaucoup de challenges à relever, que ça soit en matière industrielle, que ça soit en matière de développement. Ils assimilent un petit peu la difficulté des coureurs, la difficulté qu'ils ont pu connaître.
Une dureté symbolisée bien sûr aussi par les pavés tant redoutés de l'enfer du Nord, devenus au fil du temps emblème d'une région eux que les politiques ont pourtant longtemps voulu faire disparaître, raconte François Doulcier, le président des Amis de Paris-Roubaix.
S'il n'y avait pas eu Paris-Roubaix, je pense que quasiment tous les pavés auraient disparu. Dans les années 70, on chassait les pavés, ils étaient systématiquement quasiment recouverts de macadam. Le pavé est identitaire hein, des gens du Nord. Si on supprime les pavés, c'est comme si on rayait 150 ans de notre histoire.
La course permet aujourd'hui, avec l'aide des bénévoles et du lycée horticole de Rheims, d'entretenir quelques 100 km de secteur pavé, prisé depuis plusieurs jours déjà par les camping-cars.
Fanny Lechevestrier, Paris-Roubaix, demain ce sera les femmes et dimanche les hommes.
Merci Laurence Thomas. L'édito politique, Thomas Legrand, à suivre.